Prologue. Très tôt dans ma prime adolescence, j'ai été affecté par le virus de la poésie. À la même époque, c'était en 1944, la guerre n'était pas encore achevée, je venais de vivre une aventure singulière. J'avais passé une frontière censée infranchissable et accompagné un groupe de soldats de la Libération durant quelques jours sur le front d'Alsace. Rentré chez moi, mon récit me valut aussitôt une renommée de petit héros de guerre, en même temps qu'une réputation de poète me suivait, véhiculée par des camarades qui avaient découvert quelques-uns de mes textes en fouillant dans mon cartable. À peu près à la même époque, on savait que j'avais commis quelques larcins, tout domestiques, et que j'avais fait le coup de feu avec des chenapans de mon âge. Il n'en fallut pas davantage pour que mon comportement de rebelle ne me recouvre bientôt dans ma petite ville d'une aura sulfureuse et d'une légende qui me suivrait partout. Ma notoriété d'ailleurs fâcheusement double et paradoxale puisqu'elle me cantonnait en la canaille tandis que certains me dépeignaient en rêveur et en poète qui, dans ce contexte, ne pouvaient qu'apparaître dans l'ordre des maudits. Ce portrait de moi perdura longtemps, alors même que j'étais rentré dans le rang, assagi depuis belle lurette. Passé l'aventure et les méfaits, je me réfugiais dans l'apprentissage de la poésie dont j'avais eu très tôt la révélation. J'avais 15 ans et j'allais de l'avant avec au cœur la certitude que la poésie m'absoudrait de mon passé douteux et qu'elle ferait de moi un homme. Et dans le même mouvement, un poète qui serait écouté des autres. Ce n'est pas pour le pittoresque que j'évoque ces événements, d'ailleurs tout personnels, et qui, présentés ainsi, n'ont en effet qu'un intérêt très anecdotique. Je les ai d'ailleurs relatés dans une absolue authenticité et au long d'une autobiographie sans complaisance qui m'était dictée par le besoin, après tant d'années, de débarrasser enfin ma légende de toutes les faussetés dont la rumeur l'avait grevée. C'est à la mort de mon père que la nécessité d'une confession personnelle s'est imposée à moi avec une violence venue de très loin. Je devais cette vérité à mes descendants. Dans le même mouvement, il me vint comme un devoir envers les miens, à moi, l'homme de plume, de retracer aussi précisément que possible l'histoire même de la famille, d'évoquer nos devanciers en remontant à la rame le cours du temps. Dirais-je évoquer ou invoquer ? L'absence totale d'archives familiales allait fâcheusement me limiter aux seules ressources d'état civil et à quelques anecdotes entendues en mon enfance dans les conversations des aînés. C'était bien mince, mais suffisant pour donner quelques réalités à la génération de mes grands-parents. Quand je dis mes grands-parents, je bute aujourd'hui sur une interrogation certes latente, mais qui persiste à m'alerter étrangement. J'ai eu un grand-père et deux grands-mères, soit les grands-parents maternels et une grand-mère paternelle. L'absence d'un grand-papa, père de mon père, ne m'avait jamais intrigué. Il semble bien d'ailleurs qu'on ait délibérément fait silence sur cet aïeul énigmatique dans la génération de mon propre géniteur. Celui-ci n'en parlait jamais, ma grand-mère non plus, tout au plus à la fin de sa vie, au gré de l'une ou l'autre confidence rarissime et vite ravalée, sur un époux fantasque et un père défaillant. Le mutisme à son sujet semblait être de règle, de telle sorte que la conjuration du silence ne pouvait que solliciter année après année ce que j'ai fini par considérer comme un devoir de mémoire particulier. Dans le tableau de famille, où quelques aïeux et les devanciers plus ou moins connus, sagement, se tiennent en leur médaillon, il manque cette figure d'un voisard, Jacques Louis Eugène dit Louis, 1867-1916. Au mur du salon, on a laissé vide la place que son portrait devait occuper. Il y a comme une tache joliment ovale sur le papier peint. Le silence qui enfermait cette existence m'est devenu à la longue insupportable et il me faut bien en découdre avec les fantômes. Cet homme pouvait ne pas avoir été exemplaire, je ne veux a priori le considérer comme indigne, et sa mémoire m'importe. Je suis de lui comme mes enfants sont de mon père. Nous nous reconnaissons les mêmes détails dans le visage, des similitudes dans la manière de se tenir et marcher, dans le rire ou l'oreille, dans le pouce ou le raclement de gorge, dans le goût de la nature et de la musique. Je sais que cet aïeul inconnu m'a légué ses gènes. Je veux me le rappeler en dépit de toutes les exclusives qui ont pu affecter sa mémoire jusqu'à moi. Le sang de cet indésirable coule dans mes veines. Il m'habite donc, et désormais, il me fait face, me défie. Dans le miroir, je vois s'esquisser une réalité dont j'ai à témoigner, moi l'écrivain. De ce revenant, je ferai un homme de chair et d'engagement, de quelques menues anecdotes, une histoire qui pourra, qui devra être aussi authentique que ma propre autobiographie. Y a-t-il suffisance à nourrir un tel projet? Est-ce gageure d'auteur obnubilé? Je refuse de répondre à la question, car c'est bien davantage l'exigence de la mémoire de la tribu qui est ici en jeu que la vanité d'un homme de lettres. Et voici le début de ce récit que m'inspire cet être bien lointain aujourd'hui, récit que j'intitule provisoirement « Les trois vies d'un homme de peu ». Firmament, le firmament. Voilà peut-être le premier mot qui m'étonna vraiment, tombé de la bouche de mon père. Il survenait sans doute dans l'une de ces chansonnettes que papa, maître d'école de son état, nous susurrait à l'heure du coucher. Et ce firmament était chaque soir justement le théâtre d'un prodige dont on faisait grand cas, l'apparition de l'étoile du berger, premier lumignon allumé sur nos têtes. Tu la vois maintenant, là? Oui, là. Les soirs d'hiver, vers la chandeleur, elle est si proche du dernier quartier qu'on voit la lune bouche ouverte au-dessus de l'étoile, avec l'air de la vallée, comme le montre le drapeau turc. Ou bien l'une et l'autre s'attendent-elles pour le palabre? Quoi qu'il en soit de mes deux figures du soir, l'étoile, la première, était prétexte à l'impatience de la voir se dévoiler, puis d'émerveillement devant ce miracle répété à chaque crépuscule. Il n'y avait donc alors qu'une seule étoile pour occuper la nuit immense, celle du berger, unique et singulière présence à l'heure où le sommeil va vous emporter. Pour longtemps, l'étoile était unique dans la voûte céleste et elle le resterait, tant que l'enseignement paternel ne nous aurait pas montré la complexité du monde et la pluralité des choses et des êtres. C'est donc en grandissant que nous vîmes les astres s'allumer les uns après les autres jusqu'à l'embrasement féerique de la voie lactée. L'immensité du ciel devint l'ardoise où les signes tremblotaient avant de s'effacer à l'heure dite, au bout de leur message. Une seule étoile au ciel, rendez-vous compte. Quant au reste de notre univers familier, tout était multiple. Les marguerites, les oiseaux, les petites filles, les arbres et leurs fruits, les pieds et leurs chaussures, les vélos, les livres, les crayons. Même les anges, nonobstant l'ange gardien, veillaient en nombre parmi les troupeaux de nuages. Seule l'étoile du berger resplendissait en sa singularité au-dessus de nos têtes. Telle est la rêverie qui souvent m'emporte lorsque j'évoque mes propres origines. La connaissance que j'en ai ne m'amène pas très loin sur le chemin de mes devanciers. La génération précédant mes parents constituait mon repère le plus ancien du creuset familial. D'arrière-grands-parents, il n'était jamais question dans les conversations d'adultes. Mes grands-parents auraient pu surgir de limbe mystérieux ou être tombés justement de ce firmament où s'inscrivait l'étoile. Eux-mêmes n'évoquaient jamais leur père et mère. Le monde et mon histoire commencent donc sur les genoux de mes grands-parents, de ces mots survenant à leurs lèvres et de ces choses que triturent leurs doigts. Tout prend forme et sens à partir de cette image biblique, tableau naïf nous révélant à nous-mêmes en humble figure laborieuse, sagement rangée dans un ordre social et drôlement astiquée dans le temps historique. Une histoire, la mienne, à la fois singulière et banale, redevable à cent autres en amont, en instance de proliférer en aval. Du côté maternel, un grand-père et une grand-mère, fils et filles de paysans de la montagne, tombés vers la joie, en une aventure ouvrière des plus aléatoires. Du côté paternel, une grand-mère, petite protestante d'Erguel, échouée en pays catholique, au service domestique de paroissiens aisés de son église. Pas de grand-père. Ainsi avions-nous, mes frères et sœurs et moi, deux grands-mamans et un seul grand-papa. Il y avait là quelques défauts, une lacune ou une boiterie dans l'image de la famille qui pourtant jamais ne nous interpella. Un grand-père pour deux grands-mères, qui d'ailleurs se connaissaient à peine, restant presque étrangers les uns avec l'autre. Et nous allions de l'une aux autres quotidiennement sans que la moindre occasion nous fut donné de nous interroger sur l'absence d'un aïeul qui eût fait le compte de ce qui va par deux dans le pire comme pour le meilleur des vies humaines. La tribu familiale symboliquement s'affiche sur le mur du salon, chacun fièrement campé dans l'ovale d'un cartouche à fioritures. On les a fourrés là simplement pour le compte probablement et pour que la postérité conserve une trace des ancêtres et qu'elle puisse apprécier, ça et là, la bizarrerie de filiations à controverse. Quelque part vers le haut de ce tableau solennel, un cartouche est resté vide, et cela fait comme une tache en cette image vénérable et respectée. Qu'en penser désormais? Rien, sinon qu'on a perdu la photographie de qui devait y figurer, ou qu'on l'a fait disparaître, ou qu'on n'a jamais pu tirer le portrait de l'absent. Ce qui persiste à m'étonner presque 100 ans après sa mort est le silence absolu, synonyme d'indifférence à son égard, voire d'obscurs opprobres, en lesquels s'est tenu à son propos tout le cercle familial. Ma grand-mère maternelle, cette Cécile, dite grand-maman des poules, n'évoquait jamais cet époux désormais lointain, sinon pour une réflexion acerbe qui surgissait d'une remémoration pénible. Ce que j'ai retenu, adolescent, de telle remontée d'aigreur, en 3 ou 4 coups de crayons caricaturaux, faisait de notre aïeul un lascar plutôt détestable. Quant à mon père, je ne l'ai jamais entendu parler du sien, même lorsqu'il narrait quelque épisode de son enfance. Et il y aurait eu sans doute suffisamment de matière à récit, puisque papa avait 18 ans à la mort de son géniteur. Néanmoins, je ne crois pas au complot du silence. Simplement, le personnage s'était comme évanoui dans la nuit, comme si son nom avait été rayé de la distribution des rôles. Sans l'état civil et un document irréfutable, parvenu jusqu'à moi par miracle, ce livret de service, établi par le bureau de recrutement de la Légion étrangère, dont j'aurais à tirer quelques enseignements, chacun de ses descendants eût été en droit de douter de son existence en qualité de pater familias. Après tout, tant de braves filles furent engrossées par des enjôleurs sans nom. Donc ce voisard-là fut bel et bien. Mais qui était-il, notre grand-père des oubliettes? Dans le flou de sa légende, je le vois, moi, voisard, dit Quécan de la 3e génération. Je le vois qui me fait signe de sa pauvre lanterne parmi les brumes où il est censé avoir disparu, ces bruines acides des souvenirs que les vivants repoussent comme des mouches. Je le suis dans sa nuit où l'étoile du berger lui aura de tout temps fait faux bond. Le livret militaire écorné et jauni de la Légion étrangère était une preuve d'existence. Il n'y en aurait une deuxième, comme par accroc, une photographie de groupe de la fanfare à laquelle il appartenait alors, dans la force de l'âge, à Porrentruy, chef-lieu de la joie. Ils sont une 40aine rangés là en képi, col dur, cravate noire à larges nœuds, bandoulière ornée d'une lyre de bronze bordée de lauriers en couronne. On n'est pas étonné de le trouver là. Ses 4 fils, à ce qui nous fut démontré dans notre plus tendre enfance, ayant été de talentueux musiciens. On disait d'eux, « Ah, les voisards, ils en ont au bout des lèvres et des doigts !» Il devrait donc y avoir eu, côté musique, quelques relais génétiques. Le voilà donc ce drille de piètre mémoire, ce bougre d'individu, ce loustique insaisissable. Peut-être ce taborgnot qui, dans la bouche de mon père, désignait quelque être méprisable, un fainéant ou un schnappant sans foi ni loi, un madré combinard. Je le vois enfin de mes yeux, cet ancêtre fantôme dont je n'ai jusqu'ici jamais pu imaginer l'existence. Il est donc devant moi, il ne me regarde pas en face. Légèrement de trois quarts, il semble fixer un point que lui a désigné de son doigt tendu le photographe de service. L'œil est clair, sous un sourcil bien dessiné, le nez modeste au-dessus d'une moustache plutôt fine, aux extrémités effilées. Le menton est rond et marqué d'une petite fossette qui ne se retrouve pas chez son fils mon père. L'air de quelqu'un à qui on ne l'a fait pas, l'image somme toute d'un personnage équilibré dans la force de l'âge, une trentaine, saine et gaillarde. N'était sa drôle de légende, ce seul portrait m'apporterait l'image d'un homme pondéré, bien dans sa peau, apte à prendre, par hypothèse, du service dans les douanes helvétiques. À l'époque de cette photographie, nous sommes au tournant du siècle, sa seconde épouse Cécile lui a déjà donné 4 enfants et elle lui en réserve 3 autres, dont le dernier, une fille, fera son apparition en 1910. Mais nous n'en sommes pas là, il s'en faut, puisqu'il nous faut imaginer, c'est ici le destin irrésistible du chroniqueur, ce qui constitua dès l'origine la vie d'un héros, fût-il de pacotille ou de médiocre aloi. À sa naissance, le 23 janvier 1867, à Fontenay, Jacques-Louis Eugène, dit Louis, est officiellement le 4e rejeton de l'horloger Alexandre Voisard. 2 sœurs et 1 frère le précèdent, 2 autres sœurs viendront s'y ajouter dans les années suivantes. Entre-temps, l'état civil aura enregistré pour la forme 4 autres naissances dont il ne retiendra pas le prénom. On ne s'embarrasse pas alors d'enfants tôt privés de souffle aux premières heures de leur si brève apparition et qui encombreraient les registres officiels. La famille vivote au gré de revenus intermittents autant qu'aléatoires procurés par l'assemblage de mouvements de montres dans les boîtiers que lui confient de petits fabricants de la région. L'industrie qui verra fleurir les ateliers dans les décennies à venir n'en est encore qu'à ses prémices. L'établi de l'artisan à domicile est souvent occupé par maman Louise, rabaudant les jupons de ses filles ou cousant des dentelles aux encolures des robes de dame patronesse. Louise est humble, travailleuse et dévouée autant que taciturne. Ce n'est pas elle qui ferait une histoire pour la cendre tombant de la pipe paternelle sur la table où les fillettes épluchent les patates fraîchement apportées du potager. Elle est une abeille affairée, il est un rêveur réveillé parfois par une idée malicieuse qui la laissera de marbre, tandis que les petites donzelles jouent des coudes en pouffant. Louis apprend vite à marcher. Sa sœur aînée le traîne dans la maison en le soutenant sous les bras. Très tôt, il se manifeste par des audaces qui ne sont pas de son âge, comme dit papa, et qui vont mal finir, prédit sa maman. Il escalade les armoires, grimpe sur les tables. À 3 ans, on le voit se hisser dans le lilas du jardin potager pour imiter le paternel qui un jour l'a emmené avec lui à la Combe-Vatelin ou aller, comme disait, aux oiseaux. Il l'a porté sur ses épaules, passé la croix sous Villard, puis, arrivé à 200 pas de la ferme, il l'a installé sur une souche de chêne, d'où le petit verrait tous ses gestes. Dans le tilleul, où il monte agilement, de branche en branche, avec le trébuchet où viendront se faire prendre serins et chardonnerets. Quand ils reviendront, tous les deux, avec son frère Joseph, le surlendemain, on n'y trouve qu'une mésange nonnette, qu'Alexandre libère aussitôt en lui lançant « Apprends d'abord à chanter comme les autres. Dans ma cage, il n'y a que de bons siffleurs. » Il sait chanter, Alexandre, chanter comme la fauvette, ou comme le merle qui répète tout ce qu'on lui raconte, c'est plus facile, et ça fait rire Louis. Il a d'ailleurs l'âme musicienne. Un Armand de Villard lui prête de temps en temps son bugle, et un jour il lui a dit « Quand je n'aurai plus de souffle, l'animal est à toi. » Et voilà, il y aura 1 an, le mois prochain, qu'Armand a fini de souffler. Depuis lors, l'instrument est à l'abri des curiosités enfantines, au-dessus du buffet de cuisine. Le père en joue le dimanche entouré de sa marmaille. On chantonne plus ou moins à l'unisson, on rit, on dessine dans les marges des journaux du mois dernier. Maman fait causette au jardin avec Madame Gigon, qui a des lapins malades au clapier.
Alexandre Voisard, avec un extrait du récit inédit « Les trois vies d'un homme de peu », enregistré le 23 mai 2009 à Soleure.